Je ne sais pas comment nous pouvons penser que ça va aller. Le Conseil américain de l'industrie de la chimie a commenté ce chiffre en prétendant que la présence de ces molécules ne signifie pas forcément qu'elles sont dangereuses. C'est peut-être vrai d'un point de vue philosophique, mais il y a une quantité de molécules identifiées comme mauvaises. Le plomb est mauvais, les PCB aussi, les retardateurs de flamme sont mauvais, et les autres n'ont pas été testés. À quoi pense-t-on ?
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, notre cerveau est-il en danger ? On en parle avec notre invitée, la biologiste anglaise Barbara Domenex, auteure de Cocktail toxique, comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau, chez Odile Jacob, spécialiste reconnue de l'hormone thyroïdienne, à laquelle elle a consacré l'essentiel de ses travaux, médaille de l'innovation du CNRS, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Elle nous alerte sur les effets néfastes des polluants environnementaux que notre organisme absorbe chaque jour en quantité croissante. L'Académie des sciences vient à son tour d'appeler à poursuivre les recherches sur ces molécules omniprésentes. Troubles neurologiques, difficultés d'apprentissage, ils pourraient à l'avenir entraîner une baisse globale des performances cognitives, une baisse de QI à grande échelle. Autrement dit, demain, tous crétins, c'est aussi le titre du documentaire Choc diffusé sur Arte et visible en replay jusqu'au 10 janvier de Sylvie Gillemant et Thierry de Lestrade, les réalisateurs de Mal en péril, sur la fertilité abîmée sous l'effet des polluants. Et le glyphosate dans tout ça. On en parle beaucoup depuis hier. Cancérogène, perturbateur, les études divergent. L'Union européenne a voté hier le renouvellement pour 5 ans de la licence de cet herbicide controversé. Le principe de précaution a-t-il été respecté ? On va en parler avec vous, Barbara Domenex, jusqu'à 13h30 et avec à mes côtés Antoine Mercier. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors ce glyphosate, juste pour comprendre d'abord, est-ce qu'il fait partie de ce cocktail toxique qui, selon vous, empoisonne notre cerveau ? C'est un perturbateur endocrinien ou pas ?
Ben, glyphosate, per se, probablement moins que Roundup, qui est avec tous les adjuvants qui sont mis pour aider cette substance à pénétrer dans les plantes. Et donc le Roundup, c'est clair, c'est un perturbateur endocrinien. Le glyphosate, il cible une enzyme qui n'est pas exprimée dans le corps des mammifères, donc pas dans les cellules de notre corps proprement dit. Mais quand même, cette enzyme est exprimée dans notre microbiote, dans notre flore intestinale. Et il y a pas mal de gens qui pensent que ça pourrait être... la présence de ce glyphosate peut déséquilibrer cette flore intestinale. Et cette flore intestinale est vitale pour l'homéostasie de notre système immune. Et puis, évidemment, il y a plein d'autres fonctions. Donc, voilà. Le glyphosate a été testé il y a des années quand on n'était pas au courant de l'importance de ce flore intestinale. Donc, voilà, je pense que c'est par là qu'il y a des effets sur l'homme.
C'est un bel exemple, ce glyphosate, de la bataille d'experts et des études qui peuvent être menées autour de ces substances, de toutes ces molécules, de ces polluants et de leur impact sur l'environnement et sur la santé. C'est aussi un bel exemple du processus de décision aujourd'hui, autoriser, interdire, de cette question aussi du principe de précaution. On va y revenir. L'Union européenne avait jusqu'à la mi-décembre pour décider de prolonger ou pas cette licence à partir des éléments donnés. Le temps des scientifiques n'est pas le même que celui des politiques, a réagi de son côté la FNSEA. Et c'est intéressant aussi cette question du temps. Depuis la sortie l'an dernier de votre précédent ouvrage, Le cerveau endommagé, qui traitait déjà de l'impact de la pollution sur notre santé mentale, de quelles nouvelles données disposiez-vous pour cet essai-là, Cocktail toxique ? Est-ce qu'il y a des nouvelles études scientifiques et ou épidémiologiques qui sont venues alimenter votre travail et votre réflexion ?
Pléthore. Justement, effectivement, Le cerveau endommagé était publié, était écrit en 2012-2013. Et depuis ça, on a eu non seulement les données sur le baisse de QI, mais aussi sur les effets des phtalates, ces plastifiants qui peuvent diminuer les taux circulants des hormones thyroïdiennes, sur les retardateurs de flamme, sur certains pesticides. Il y a de plus en plus de données sur les pesticides qui sortent pour montrer qu'ils peuvent aussi être des perturbateurs endocriniens. Et on pense toujours que les pesticides sont parmi les substances les mieux testées. Mais voilà, juste l'effet du glyphosate. Et aussi, il ne faut pas oublier que le glyphosate, est-ce qu'il a un effet sur les êtres humains ? Oui, bon, on peut en discuter. Et effectivement, l'EFSA a simplement quasiment copié l'avis de Monsanto.
Mais l'EFSA, c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments, hein, qui a estimé que le glyphosate n'était ni cancérogène, ni un perturbateur endocrinien.
Oui, et bon, toute seule, ok. Mais comme je vous ai dit au début, c'est surtout Roundup qui est un perturbateur endocrinien. Et c'est surtout les effets sur l'environnement, sur l'écologie, sur le sol, que le glyphosate est en train de faire des dégâts énormes.
Vous pouvez nous expliquer comment on part de la substance et comment on arrive à la dégradation du cerveau en quelques minutes, si c'est possible,
si on va partir, par exemple, sur les pesticides, ok. Je ne vais pas parler du glyphosate per se en ce moment, je vais parler de d'autres types de pesticides. Juste EFSA, qui a donné cet avis sur... favorable sur le glyphosate, EFSA a quand même publié en 2013 un avis où ils ont regardé 287 pesticides et ils ont vu que 101 avaient des effets de près ou de loin sur l'axe thyroïdien qui est essentiel pour le développement du cerveau. On sait que sans hormone thyroïdienne au bon moment, un enfant va rester crétin, d'où le titre
du documentaire.
Et aujourd'hui, on a un peu oublié qu'est-ce que c'est un crétin, parce qu'on teste chaque enfant qui naît pour savoir s'il a assez d'hormones thyroïdiennes pour développer son cerveau. Et si on n'en a pas, on va lui donner en remplacement. Mais ce qu'on a appris dans les derniers 20 ans, c'est quand même que les taux d'hormones maternelles, des hormones thyroïdiennes chez la mère, vont aussi être déterminants pour le QI de l'enfant et la structure de son cerveau. Donc ça, c'est dans les derniers 20 ans. Ce n'est pas ça qui a irrigué tant mon deuxième livre. C'est plutôt les effets qu'on a pu mettre en évidence plus récents sur l'importance des hormones thyroïdiennes. Là, il y a eu des données vraiment dans
Comment
les derniers...
Comment vous les mettez en évidence?
C'est pas que moi, travaille avec les épidémiologistes, mais moi, je travaille, comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais je travaille au laboratoire sur des têtards fluorescentes qui vont s'allumer quand il y a trop ou pas assez d'hormones thyroïdiennes dans l'eau dans laquelle ils nagent. Et donc, si on ajoute une substance, on peut voir, avec la lumière qui est mise, s'il y a un effet sur les hormones thyroïdiennes. Cette méthodologie m'a emmené à fonder WatchFrog, qui travaille de manière indépendante aujourd'hui. Mais WatchFrog est donc une compagnie qui développe cette technologie. Et moi,
Regarder, Frog de la grenouille, c'est ça?
Oui, c'est un jeu de mots sur l'anglais. Watchdog, c'est un chien de garde. Quoi. Ouais. Et donc, c'est une tête sentinelle qui va nous donner des informations. Et eux, ils travaillent de manière indépendante. Et nous, dans le laboratoire, avec Jean-Baptiste Fini, on a travaillé surtout sur les effets des mélanges récemment. Et parce que chaque être qui marche sur Terre, vous et moi, et surtout, il faut penser aux femmes enceintes, on est contaminé avec des dizaines, probablement des centaines de substances. Alors, parmi cela, sont des pesticides. Pour revenir à votre question, comment ça se fait qu'un pesticide va affecter le développement du cerveau? Parce que souvent, ces pesticides, ils vont soit déplacer les hormones thyroïdiennes des différents transporteurs qui vont distribuer l'hormone dans le corps, ou ils vont accélérer le métabolisme par le foie, parce que trop de pesticides veut dire que le foie va se mettre en route, et en mettant en route le métabolisme des pesticides, il va aussi métaboliser de plus en plus les hormones thyroïdiennes naturelles, et donc baisse d'hormones thyroïdiennes, si ça est chez une femme enceinte, ça va avoir un effet, ça va avoir un impact sur le développement du cerveau, du fœtus en voie de développement.
Parce que ces molécules chimiques proches des hormones thyroïdiennes par leur structure vont interférer avec les processus naturels de régulation et agir ainsi directement sur le développement du cerveau. Il y a aussi une captation de l'iode qui est
Tout
nécessaire par l'organisme. Expliquez-vous, ces substances chimiques bloquent l'absorption de l'iode et ralentissent la croissance, ce qui nous ramène à une autre étude, puisque vous avez cité ce mot qui peut paraître assez péjoratif pour beaucoup, celui de crétinisme.
Oui,
ça nous renvoie à une étude du 19e siècle sur le crétinisme dans les Alpes, d'où l'expression crétin des Alpes, dont on ne connaît pas forcément l'origine, très scientifique et très sérieuse. Qu'est-ce qu'elle démontrait, cette étude, sur l'importance de l'iode?
C'était quand même... C'est fascinant cette étude. Déjà, c'était fait dans les années 1850, où on est allé voir la quantité d'iode dans le sol et dans les plantes en différents coins de France. Et on a vu que dans les régions de Savoie et des Alpes, il y avait moins d'iode dans le sol parce qu'on était à une grande distance de la mer. Et donc, heureusement, en même temps, on avait trouvé une source de sel naturel iodé. Et ce qui m'emmène à dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui rentrent en grossesse parce qu'on va utiliser plus souvent du sel de mer. Et on pense que comme le mer est très riche en iode, que le sel de mer en contient. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce que l'iode est volatile et donc le sel de mer ne contient pas. C'est pour ça que dès 1850, on a commencé à utiliser du sel iodé pour supplémenter en iode.
Voilà pour cette étude. Pas de questions, Antoine Mercier, dessus.
Oui, je voudrais savoir, ça, par exemple, une journée de temps, pour essayer de rendre réel un petit peu tout ce que vous nous dites, dans une journée type d'un individu lambda, à quel moment on va être en contact avec ces substances, puisque vous parlez de cocktails toxiques, est-ce que vous avez une journée type à nous dérouler? Bon, évidemment.
À tout moment de la journée, même quand on dort, on est exposé. Si on a une matelas qui est traitée au retardateur de flamme, on va dormir sur... on va inspirer ces produits pendant qu'on dort. Là,
on est tout aussi exposé dans les villes que dans la campagne, par exemple.
Oui, mais dans la ville, on est exposé. Bon, la pollution n'est pas très bonne non plus pour la santé, mais dans la campagne, on va être exposé, on va être plus près de l'application des pesticides. Et il y a énormément de pesticides.
D'ailleurs, dans le studio, là aussi, on était.
Ben oui, avec tout ce qui est la mousse, là, de l'ameublement, la moquette. Les ordinateurs,
menacée,
oui, on a des retardateurs de flamme dans les ordinateurs, c'est pour ça que je conseille d'éteindre les ordinateurs la nuit, sinon il y en a qui vont rentrer dans l'atmosphère, et de ne pas dormir surtout avec un écran allumé dans sa chambre.
Et les plastiques d'emballage, tout ça évidemment aussi, des aliments.
Oui, malheureusement, oui.
Les produits désinfectants.
Et les femmes sont particulièrement exposées parce que non seulement c'est elles qui toujours font la plupart du ménage, mais aussi parce que c'est surtout elles qui vont utiliser les cosmétiques et les cosmétiques peuvent en contenir.
Voilà, si vous voulez voir à quoi nous sommes exposés dans ce studio et pas seulement, vous pouvez, j'ai oublié de vous l'indiquer, nous suivre aussi aujourd'hui en vidéo sur le Facebook Live de France Culture. Invité de cette deuxième partie de la Grande Table, la biologiste Barbara Domenech pour son nouvel essai enquête cocktail toxique. Comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau? C'est chez Odile Jacob.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Barbara Domenech, ces substances perturberaient donc le fonctionnement de notre système endocrinien. Nous devenons de plus en plus stupides. Ça se passe en ce moment et ça ne va pas s'arrêter si nous ne faisons rien. La civilisation qui repose sur l'intelligence ira en sens inverse. Extrait du documentaire d'Arte qui s'ouvre sur ce pronostic assez sombre d'Edward Dutton, anthropologue britannique qui s'est plongé, là encore, une autre étude dans les statistiques des armées scandinaves. Ils ont fait passer le même test d'intelligence aux conscrits depuis des décennies. Constat, le quotient intellectuel a augmenté jusque dans les années 90 et là, depuis, la courbe n'a cessé de baisser depuis 20 ans. Il note une inversion de cette courbe de l'intelligence. Jusqu'où ira-t-on? Jusqu'à quand cette courbe va continuer à diminuer? Mais ce que cette enquête ne dit pas, ces statistiques ne disent pas, c'est quelles sont les causes de cette baisse de la courbe. Est-ce que c'est prouvé aujourd'hui que ces causes sont environnementales? Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet indiscutable?
Oui, cette idée de causalité est très difficile à mettre en évidence, mais il faut entrecouper l'épidémiologie avec les études expérimentales. Parce que d'abord, on peut faire des tests QI chez des gens, et tout le monde est d'accord qu'ils sont insatisfaisants, mais il faut quand même mesurer l'impact d'une exposition prénatale, par exemple, d'un produit chimique sur le développement du cerveau. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on a de mieux? C'est quand même un test de QI. Ou le temps de réaction. Je peux revenir plus tard. Mais disons que, donc, épidémiologie, on va faire des études chez les femmes enceintes et voir quel était le taux d'exposition. Et après, 7 ans plus tard, on fait un test de QI sur leur enfant. Et on va constater que, par exemple, pour le PCB, pour le mercure, pour le perchlorate, pour énormément de substances, on va voir que les mères les plus exposées, le risque que leur enfant ait un QI moindre est très important. On peut en même temps faire des études expérimentales où on va voir le mécanisme mis en cause. On va établir un lien biologique plausible entre l'exposition et l'effet. Et souvent, on va voir que c'est des effets qui vont passer par les hormones thyroïdiennes qui sont, comme on l'a déjà dit, très importants pour le développement du cerveau. Donc c'est en entrecoupant épidémiologie et expérimental, en établissant des mécanismes biologiques plausibles, qu'on va pouvoir démontrer les effets d'une exposition chimique à un effet sur le QI de l'enfant.
Alors, on va pouvoir ou qu'on a ?
On a, ah, on a.
D'accord.
Oui, mais pour les produits futurs, on va pouvoir faire ça. Mais malheureusement, justement, il y a énormément de débats sur jusqu'où il faut accepter qu'une étude expérimentale, et ce que nous, on va présenter, si on est endocrinologue, on va dire qu'on a assez de données. Sur l'expérimental, il ne faut pas attendre qu'on ait des résultats en épidémiologie. C'est déjà trop tard. Alors, il y a 143 000 produits sur la liste de REACH, régulation, évaluation, autorisation des produits chimiques, et ça n'inclut pas les pesticides. Et donc, il y a beaucoup de molécules à tester. Les plupart n'ont pas été testées. Les plupart des pesticides, il faut revisiter et réévaluer en fonction des connaissances d'aujourd'hui. Donc, il y a énormément de choses à faire et énormément de produits à tester. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est l'effet des mélanges qui vraiment nous pose un problème en termes de tests aujourd'hui.
Parce que c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est le titre de cet ouvrage, Cocktail toxique. Oui. Est-ce que cet effet cocktail est lui aussi démontré aujourd'hui?
Ben oui, nous on l'a démontré dans le laboratoire avec Jean-Baptiste Fini. On a mis un mélange de 15 substances qui sont présentes chez quasiment tout le monde. Des différentes études, on les démontrait, la présence de ces 15 études. Nous, dans le laboratoire, on a cherché quelles étaient les concentrations de ces substances dans le liquide amniotique. Et on a trouvé que chaque substance, non seulement passait la barrière placentaire, mais était présente dans le liquide amniotique. Donc, ce n'est pas que chaque enfant naisse contaminé, il est déjà conçu contaminé. Et nous, on a testé sept mélanges sur nos têtes pour savoir si ça pouvait affecter le développement du cerveau du têtard. Et on a vu non seulement ça affectait le développement du cerveau, mais aussi le comportement du têtard. Et évidemment, ça passait par les hormones thyroïdiennes.
Alors, même si tous les tests n'ont pas été menés, toutes les études, vous dites à partir de là, de ces connaissances qu'on en a, principe de précaution, il faut retirer ces molécules de la circulation, ces produits de la circulation.
Ce qui en a démontré un effet en expérimental. Alors, évidemment, par exemple, Macron a tweeté aujourd'hui pour le glyphosate qu'il faut trouver des substances de remplacement. Et il faut éviter de faire comme on a fait avec le BPA, de remplacer ça avec le BPS ou le BPF, ce qu'on appelle une substitution regrettable parce que souvent, ces produits ne sont pas suffisamment testés non plus. Donc, mais il y a une place pour la chimie et l'industrie chimique ici. Ils savent aujourd'hui faire des molécules qui se dégradent beaucoup plus vite, qui fait ce qu'on appelle la chimie verte. Et il faut investir dedans. C'est comme pour le changement climatique. Quand on a commencé à investir dans des énergies alternatives, on a pu donner un coup de pouce à l'innovation. Et on va faire la même chose pour la chimie verte aujourd'hui. C'est pas un frein. Le principe de précaution n'est pas un frein à l'innovation. C'est tout à fait le contraire. Ça va pousser l'innovation.
Mais pour en arriver là, il faudrait que toutes les expertises en la matière, sur une molécule, sur un produit, ne soient pas divergentes et qu'elles ne soient pas faillibles non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on en soit sûr pour arriver à déclencher une décision du côté des décideurs.
Tout à fait. Alors, oui, il faut des expertises un peu plus dignes de ce nom et pas copier-coller chaque fois quelque chose qui vient d'une source qui n'est pas nécessairement aussi fiable qu'on le voudrait.
Certaines expertises ne sont pas indépendantes aujourd'hui, elles sont influencées ou sous influence.
Ça, c'est pas ma spécialité, vous savez qu'il y a d'autres gens nettement mieux que moi pour en parler. Moi, je suis scientifique, je fais de la science. Si j'ai écrit ces deux livres, c'est parce que au fur et à mesure que... Bon, d'abord, il faut remonter, en, si je peux me permettre.
Oui, mais pardon, mais c'est tout le problème, parce qu'en même temps, oui. nous, on n'est pas scientifiques. Et oui. on se retrouve pris dans le piège des batailles oui. d'experts et des batailles de oui. scientifiques. Alors, et on ne sait plus à quel sein se vouer, ni qui croire, ni quel okay. biberon donner right. à son enfant. Donc à un moment, comment ah, ça
oui.
se décide?
Ah oui, tout à fait. Alors là, c'est... OK. On est scientifique, on donne les informations. Et... Vraiment, on essaie vraiment, comme vous le savez, vous avez regardé les films, j'y vais souvent à Bruxelles, je ne suis pas seule, il y a beaucoup d'endocrinologues, la société d'endocrinologie, 18 000 membres mondialement, on écrit des reviews, on a donné toute l'information aux décideurs. Ce qu'ils font avec, c'est malheureusement, c'est pas notre sort. On donne l'information, on peut... éveiller le conscience publique, le consommateur quand même peut avoir un rôle à jouer quand il dit non, je ne veux pas ça dans mon assiette. On a vu 1,3 million de personnes ont signé la pétition citoyenne contre le glyphosate. Donc, il y a un voix, il y a des mécanismes et
qu'elle s'avouait. Il y en a encore pour 5 ans.
Ouais, malheureusement. Mais pas en France. Quand même, pour une fois, le gouvernement a l'air de vraiment tenir à aider les agriculteurs, parce qu'il faut aider les agriculteurs à sortir. Il faut, vraiment, c'est quand même un changement dans les méthodes agricoles qu'il va falloir mettre en place.
Comment faire avec les experts, par exemple? On sait que l'Europe, qui a donc décidé de reconduire le glyphosate pour 5 ans, fait des copier-coller. Enfin, les experts...
Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai essayé de dire.
Longtemps. C'est ce que vous disiez oui, tout à oui, l'heure en oui, allusion, oui. mais je le précise.
Oui, tout
une
à
ONG
fait.
Autrichienne Global 2000 révèle, document à l'appui, que de longs passages du rapport d'évaluation officielle sur la toxicité du glyphosate étaient parfaitement identiques au dossier déposé par Monsanto oui, pour solliciter le renouvellement
oui,
du produit.
Ça, c'est Stéphane Aurel et Stéphane Foucault qui ont bien démontré ça et bien décortiqué.
Dans le monde.
Et il faut vraiment les féliciter pour ce travail. Et effectivement, on est tous un peu débordés, mais de temps en temps quand même, par exemple, pour ça, il aurait fallu vraiment vérifier, il fallait vraiment remonter et voir d'où venaient ces études et les vérifier.
Vous écrivez dans Cocktail toxique, que faire? Peut-être peut-on s'autoriser un peu d'optimisme. Alors c'est vrai qu'après avoir vu et le film Demain tous crétins et lu votre livre Cocktail toxique, on est un peu moins optimiste, il faut quand même vous l'avouer. Surtout quand vous nous avez expliqué qu'il y en a là, partout, autour de nous. Ouais. C'est pas facile, oui. sur des gestes personnels quotidiens, de... enlever, démonter la moquette du studio de France Culture, d'aller changer les sièges ou je ne sais quoi d'autre encore. Donc, il faut effectivement trouver ouais, à la fois des mesures à la portée de chacun.
Oui,
et puis, il faut sensibiliser la collectivité. Et vous l'écrivez, il n'est pas exclu que nos connaissances sur les mécanismes épigénétiques et leur importance pour le développement nous donnent non seulement la capacité, mais aussi la volonté d'agir. Alors, le problème aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Il y a tout d'abord les résistances rencontrées, à commencer par celles des industriels, selon qui, pour éradiquer les perturbateurs endocriniens, il faudrait cesser de produire un nombre considérable de substances, ce qui ruinerait l'industrie, mettrait des millions de personnes au chômage. Ça, c'est l'argument qu'on entend de leur côté. Contre-argument, dans ce documentaire « Demain tous crétins » de Léo Trassand, pédiatre à New York, entouré d'une équipe ouais. d'économistes et de statisticiens, il a calculé le coût pour la société de la perte de points de QI, extrait de ce documentaire auquel vous avez participé comme conseillère scientifique.
Si un enfant rentre de l'école avec un point de QI en moins, les parents ne le remarqueront même pas. Mais si 100 000 enfants rentrent de l'école avec une perte de 1 point, l'économie le remarquera fortement. On sait que les enfants qui ont un point de QI en moins perdent 2% de productivité dans leur vie. Or, un enfant a une productivité moyenne de 1 million de dollars au cours de sa vie. Si vous faites le calcul, chaque point de QI perdu coûte 20 000 dollars par enfant.
Comme tout calcul, il peut paraître froid, mais il est le langage commun de l'industrie et de ceux qui écrivent les lois.
On a récemment calculé le coût en termes de santé et le coût économique des perturbateurs endocriniens aux États-Unis et en Europe. Dans les deux cas, les coûts sont énormes. De l'ordre de 217 milliards de dollars en Europe et de 340 milliards de dollars aux États-Unis.
Ces coûts sont considérables, alors qu'ils ne sont calculés que sur une toute petite partie de l'ensemble des perturbateurs endocriniens.
Alors là, on entend bien ce que vous essayez de faire. D'un côté, les industries montrent le coût qu'il y aurait aujourd'hui pour la société, pour l'économie, à retirer ces substances qui sont sur le marché, à les sortir de la circulation. Vous montrez-vous, au contraire, le coût social et économique qu'il pourrait y avoir à l'avenir pour les générations futures, à laisser ces substances contaminer à la fois l'environnement, mais aussi nos organismes, ces créateurs de pathologies, de fertilité, diabète, troubles cognitifs qui, à long terme, peuvent présenter un coût important pour la société.
Oui, tout à fait. Et comme a dit Léo, on a, pour les coûts sur le QI, on a pris en compte que trois substances, un phthalate, un retardateur de flamme et un pesticide, organophosphate. Donc vraiment, c'est une tout petite pointe de l'iceberg. Et là, on a pu vraiment démontrer, parce qu'on avait des bonnes études d'exposition pour chacune de ces substances et le QI de l'enfant. Et la plupart de ces études étaient à l'époque faites aux États-Unis. Et bon, aujourd'hui, en Europe, on essaie d'avoir ces mêmes données, mais on n'y est pas encore. Hein.
Plutôt que d'interdire toutes ces substances, parce qu'après, il y a la question des mélanges aussi, on entre dans des questions incroyables. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rétablir l'équilibre autrement?
C'est ce que nous, on recommande. Bon, à part les choses que tout le monde peut faire pour limiter son exposition, manger bio, etc., y a quand même cette idée que est très important que chaque femme qui conçoit, qui pense être enceinte, va prendre suffisamment d'iode pour subvenir aux besoins du cerveau de son enfant et d'elle-même, évidemment.
Donc, il faut prendre de l'iode, par exemple.
Oui, 150 microgrammes d'iode par jour, avec les autres vitamines qu'on prend quand on est enceinte, avec l'acide folique, etc. Donc, vraiment, ça, c'est ad minimum. En même temps, utiliser moins de cosmétiques, essayer de, comme j'ai dit, manger bio, ne pas acheter une nouvelle voiture quand on est enceinte, garder l'ancienne parce que comme ça, il y aura moins de retardateurs de flamme dans l'atmosphère, etc. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire en tant d'individu. Beaucoup de choses qu'on peut faire en tant que consommateur et membre d'une association. Et surtout, il faut quand même une législation.
Alors justement, on a parlé un peu du glyphosate, Barbara Domenech. Qu'est-ce qui fait consensus aujourd'hui au niveau de l'Union européenne sur cette question des perturbateurs endocriniens?
La définition.
Déjà, ça c'est bon.
Ça c'est bon. Tout le monde est d'accord pour dire que le perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange qui va affecter de manière adverse la santé d'un individu ou de sa descendance. Mais comment on va les identifier, ça c'est plus difficile. Quel test on va appliquer, jusqu'à quel point on va décider, est-ce qu'un effet sur le foie va être quand même considéré comme un effet de perturbation endocrinienne? La plupart des endocrinologues pensent que oui. L'industrie chimique va dire non, parce que ce n'est pas directement en effet sur le système endocrinien, ça passe par le foie. Donc c'est des jeux de mots. Et là, de nouveau, l'industrie est plus écoutée parce que pour le moment, ils ont plus de poids au niveau d'Europe.
Hein, c'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui des batailles de définition aussi entre Commission européenne et Parlement européen sur les substances qui doivent être qualifiées de perturbateurs endocriniens.
Oui, tout à fait. Le Parlement a dit que les critères n'étaient pas suffisamment bons pour protéger la santé humaine. Le fait est que le Parlement, le vote a été sur une technicité aussi qui impliquait des problèmes légaux. Parce que la Commission est allée au-delà de ses droits en changeant quelque chose dans la loi. Mais quand même, il faut dire que depuis 2009, le Parlement européen a demandé à la Commission de faire une meilleure réglementation de ces substances de perturbation endocrinienne. Donc quand même, ça fait 8 ans maintenant que le Parlement le demande. Et que la Commission traîne les guêtres un peu à cause des lobbies.
Et alors pour vous, je sais que vous êtes biologiste, mais quelle serait la bonne réglementation à adopter ?
Ben, la bonne réglementation à adopter, il faudrait faire un peu comme on fait pour les carcinogènes et les mutagènes, c'est-à-dire, quand on sait qu'une substance est une perturbation endocrinienne, il faut l'enlever du marché. Quand on pense qu'une substance est présumée, il faut aussi appliquer le principe de précaution. Et si on a quelques données qui commencent à sortir, il faut laisser le temps de faire d'autres études. Mais il faut suivre ce même type de classification qu'on a pour les substances démontrées être carcinogènes, c'est-à-dire identifiées, présumées ou suspectées.
Ça fait beaucoup de travail pour vous. Comment vous faites finalement avec vos têtards fluorescents ou luminescents? Vous avez un plan de bataille pour tester toutes les substances?
Disons que l'Europe a mis en place 52 millions d'euros, qui est déjà quelque chose, pour justement, ils ont ciblé, là il y a un appel d'offres auquel plusieurs groupes de chercheurs vont répondre, où ils ont ciblé, ils veulent améliorer les tests pour les hormones thyroïdiennes, pour le développement du cerveau, pour la reproduction féminine et pour le métabolisme et les mécanismes non génotoxiques des carcinogènes. Donc, il y a ces cinq domaines où l'Europe veut voir vraiment plus de recherche et amélioration des tests. Parce qu'il reconnaît, l'Europe reconnaît aujourd'hui que les tests qui ont été faits ne sont pas suffisants. Donc, on a des molécules comme les pesticides mis sur le marché où l'Europe même reconnaît qu'ils n'ont pas été suffisamment testés.
Alors aujourd'hui, l'industrie chimique vous reproche votre approche militante, pas qu'à vous, hein, Barbara Benex, mais à beaucoup de scientifiques, et tente de répondre aux accusations qu'elle perçoit comme telle par une information objective et pédagogique. En France, on a pu voir notamment la mise en ligne d'un site perturbateur endocrinien. Parlons-en. Tout en disant cela, elle concède quand même certains effets néfastes à certaines molécules. On voit qu'au-delà de la guerre réglementaire, il y a aussi une bataille de l'information qui est en train de se jouer aujourd'hui. Est-ce que c'est pas la première des batailles à remporter auprès de l'opinion publique?
Ben oui. Mais il y a quand même l'industrie a des gens qui vont faire quasiment que ça. Nous, les chercheurs, on essaie à la fois d'avancer la science, de comprendre, de faire, si comme moi, j'ai mis en place WatchFrog qui fait maintenant des tests de manière indépendante. Moi, dans le laboratoire, on fait aussi les tests, on essaie d'améliorer, mais on fait aussi de la recherche fondamentale. Et donc, l'industrie a l'avantage dans la mesure qu'ils peuvent se permettre. Ils ont un chiffre d'affaires qui est loin au-delà de ce qui est le financement de la recherche publique. Et donc, c'est David contre Goliath, quelque part.
Merci beaucoup, Barbara Domenech. Cocktail toxique, comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau? C'est le titre de votre dernier essai enquête paru chez Odile Jacob. Si vous devez partir sur le théâtre des opérations, celui de l'information, vous pouvez toujours confier votre groupe de tétards à Antoine Mercier, qui sera ravi de s'en occuper.
Je suis dit aussi rapidement comme mesure préventive, hein, c'est ça.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Chaque jour, quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission, à la programmation préparation aujourd'hui encore. Clémence Marie et Henri Leblanc, Claire Maillot et Coppelia Ménardi, avec l'aide précieuse, très précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin, à la réalisation Perret Legras avec Jacques Hubert. Très bel après-midi à tous et je vous dis à demain.